Radio Déclic,
encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic. Radio Déclic.
On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Eh bien bonsoir, bienvenue sur Radio Déclic 106.3. Aujourd'hui, plein de monde encore dans le studio. Alors bonsoir Mehdi.
Bonsoir Florence et bonsoir à tous. Moi aujourd'hui, je reçois Jean Braffman qui est parent d'élève au lycée Paul-Éluard.
CZ est avec nous aussi. Bonsoir CZ.
Bonsoir Florence, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les petites pépites insolites, il y en aura trois ce soir.
Philo, bonsoir Philo.
Bonsoir Florence, bonsoir tout le monde. Alors moi, je vais vous parler du cannabis aujourd'hui.
Voilà, donc une plante. Hein.
Oui, en plante.
Voilà, on continue avec, on verra tout à l'heure si c'est pour le détox ou pas. Georges, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme qui pratiquement tout seul, il a fait la France, c'est Louis IX, ou Saint-Louis.
Voilà, donc c'est au tour d'un grand homme, puisque la dernière fois, c'était une grande femme. Donc,
exactement. Voilà.
Maintenant, c'est au tour de Louis IX. On verra ça tout à l'heure. Et puis, Trésor. Bonsoir, Trésor.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, pour toi, un grand moment de la radio ?
Oui, les radios pirates.
Ah, la belle époque, donc on verra ça tout à l'heure. Eh bien, on va commencer tout de suite avec Mehdi et son invité.
Radio Déclic 106.3.
Alors Jean Braffman, vous êtes militant et parent d'élèves FCPE au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez suivi avec beaucoup d'attention les événements qui sont survenus dans votre lycée. Les enseignants ont décidé de faire grève pour élargir au lycée les dispositifs d'éducation prioritaire. Alors les professeurs ont suivi le mouvement Touche pas à ma ZEP, qu'est-ce que c'est ?
Bien, c'est tout simplement la révolte, il faut appeler ça comme ça, des enseignants effectivement, mais aussi des parents d'élèves et des élèves dans les lycées qui jusqu'à présent avaient des dispositifs ZEP, c'est-à-dire des moyens supplémentaires pour faire face aux problèmes d'enseignement pour des quartiers ou des écoles dites sensibles et qui ne les auront plus à partir de maintenant.
Alors, dans certains collèges, on constate l'inefficacité de ce système ZEP. Alors, vous militez-vous pour que les lycées soient intégrés au dispositif ou bien qu'une autre alternative soit créée ?
Et on peut dire que dans l'immédiat, compte tenu de l'expérience notamment de Paul-Éluard, dans lequel, effectivement, je n'ai pas simplement observé les événements, mais j'ai été partie prenante de ces événements, et depuis bien longtemps, puisque j'étais parent d'élève il y a 30 ans dans ce lycée également, où on a réussi à faire qu'il soit à la fois rénové et en même temps développé du point de vue des filières, du point de vue de la réussite, eh bien ça, ça a été une conquête, et aujourd'hui, cette conquête, elle s'est accompagnée de moyens qui ont été obtenu grâce au dispositif ZEP, et les supprimer, c'est renforcer l'inégalité contre laquelle on avait réussi à combattre et à gagner.
Alors on rappelle que les ZEP, hein, ce sont les zones d'éducation prioritaire.
Absolument.
Alors puisque vous dites que vous êtes là depuis plus de 30, enfin il y a 30 ans vous étiez déjà parent d'élèves, comment vous analysez l'évolution de la situation ?
Le lycée Paul-Éluard, en tout cas pour celui-ci, celui que je connais le mieux, j'en connais d'autres, mais Paul-Éluard est un fleuron des lycées, justement un fleuron de la réussite. C'est un lycée qui, de par le regroupement d'élèves venant de quartiers dits sensibles et avec des difficultés, dans les familles on a des difficultés, il y a plus de 50% des élèves qui sont, ou des familles qui sont boursiers dans ce lycée, la réussite est considérable, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% de réussite au bac, et ça s'est obtenu grâce justement à la fois à l'engagement des équipes pédagogiques, des enseignants, etc., d'une administration qui est formidable depuis plus un certain nombre d'années, qui est absolument à l'écoute et accompagne parfaitement toutes les activités du lycée, et grâce aux moyens supplémentaires qui permettent de dédoubler, qui permettent d'avoir des classes avec peu d'effectifs, qui permettent d'avoir des essais, des accompagnements de soutien, etc. Et tout ça fait un espèce d'ingrédient de la réussite qui est mis en question aujourd'hui.
Alors, Paul Éluard a été élevé en 2015 au rang de meilleur lycée public de France, un titre très prestigieux. Malgré cette nomination, le revers de la médaille est toujours vécu par les élèves, par les enseignants au quotidien. Qu'est-ce que vous demandez pour améliorer les conditions de travail à Paul Éluard, mis à part la classification ZEP ?
Bien, tout simplement que d'abord on continue effectivement ce qui existe là aujourd'hui, mais c'est aussi en amont qu'il faudrait améliorer les choses, parce que le lycée draine des élèves qui viennent de collèges qui sont ZEP, d'écoles primaires qui sont ZEP, et on a besoin d'assurer les remplacements. Par exemple, il faut savoir que une famille ou un élève perd un an de scolarité dans les quartiers, dans les villes populaires comme Saint-Denis, et ça c'est quelque chose d'absolument inadmissible. Le lycée Paul-Éluard d'ailleurs ne se contente pas de regrouper les enfants venant de Saint-Denis, mais également de Saint, de Pierrefitte, d'un certain nombre de localités qui sont toutes des villes populaires. Donc c'est pas simplement aux équipes et aux élèves de Paul-Éluard qu'on touche, c'est aussi à la population de ces villes, et il y a vraiment un sentiment de rejet par rapport aux dispositions, et on demande qu'il y ait une carte des lycées ZEP, c'est-à-dire qu'on puisse officialiser l'appartenance de ces lycées à des moyens. Ça rejoint bien entendu une revendication beaucoup plus générale, c'est que les lycées, l'engagement, l'investissement dans l'éducation devrait être bien plus important au plan national. Mais au plan national, ça ne suffit pas, il faut aussi que la plus-value qui est obtenue à Paul-Éluard, parce que c'est une véritable plus-value si le lycée a été reconnu comme le meilleur de France, c'est pas parce que les résultats sont les meilleurs de France. Il y a plein de lycées privés qui ont 100% de réussite, mais c'est celui où entre les résultats attendus et les résultats obtenus, il y a une plus-value absolument considérable.
Alors justement, pourquoi aujourd'hui cette revendication ? Parce que ça fait un moment. Alors est-ce que c'est une revendication finalement qui date de plusieurs années ? On a l'impression que c'est une revendication qu'aujourd'hui que vous demandez à ce que le lycée soit classé en ZEP.
Non, tout simplement parce que le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, va prélever les moyens qui étaient attribués au lycée Paul-Éluard, et en les supprimant, ils obligent à ce qu'il y ait des effectifs en plus. Vous savez, nous avons des classes avec 20, un effectif de 20, ce qui est vraiment formidable pour pouvoir faire un travail pédagogique d'accompagnement, d'écoute, de prise en compte du niveau de chacun et d'aide pour qu'on rattrape le niveau et même qu'on le dépasse, et augmenter de 1 à 2 effectifs, c'est diminuer la capacité d'accompagnement auprès de chacun, d'individualisation, et augmenter le nombre de classes, c'est également faire que ce lieu où il y a déjà 1800 élèves, c'est 1800, c'est très important, mais il y a plein d'activités, on le sent pas le poids d'effectifs importants. Mais si on va plus loin, on va avoir des effectifs comme nous avons combattu il y a 30 ans justement, où il y avait plus de 2000 élèves dans ce lycée, et nous avons fait en sorte par la lutte qu'on obtienne qu'il y ait moins d'effectifs pour permettre aux équipes de travailler dans de très bonnes conditions.
Justement, parlons de lutte. Quelle a été l'ampleur de la mobilisation dans votre lycée ?
Elle a été très importante à la rentrée des vacances. En une journée, on a réussi, grâce au cheminement par à la fois les familles, la FCPE, c'est-à-dire la Fédération des parents d'élèves du lycée, à contacter par SMS et par différentes voies tous les parents d'élèves du lycée, et les élèves s'y sont mis également par les réseaux sociaux, dont ils ont l'habitude aujourd'hui d'être friands, et on a eu 70% on a fait un lycée désert, une journée déserte, et 70% d'élèves absents, ce qui est en 24 heures considérable, quoi.
La direction du lycée vous a suivi ?
Elle ne s'est pas opposée.
Alors, la grève est terminée à présent. Quel est le bilan ?
Le bilan, c'est que c'est un mouvement de longue haleine. Hein. Ça n'est pas en 24 heures, effectivement, qu'on a obtenu satisfaction. Toutes les instances ministérielles sont interpellées. Encore hier matin, à France Inter, la ministre de l'Éducation nationale a été interpellée par des profs. Elle a répondu comme elle a pu, mais effectivement, en prétendant qu'il faut un an de concertation, de construction pour que le lycée devienne ZEP, ce qui est absolument faux, puisqu'il y a de l'existant aujourd'hui. et que c'est existant, on peut le maintenir en attendant que on structure un tout petit peu d'un point de vue institutionnel, mais ça, c'est vraiment des artifices. Mais l'existant doit être maintenu à tout prix. Il n'y a aucun engagement qui a été pris par le ministère, et donc on continuera. La période actuelle, qui est une période propice à poser un certain nombre de questions, va amplifier encore le mouvement, qui prend de multiples formes. Hein. Oui.
Alors, est-ce que vous avez évoqué lors de vos AG une potentielle lutte commune avec d'autres lycées du territoire qui sont aussi dans une précarité importante ?
Bien entendu. Bien entendu, c'est un mouvement national. Hein. Ça n'est pas un mouvement uniquement à Paul-Éluard. Il y a un certain nombre de lycées au plan national, à Marseille, dans les départements, les régions de l'Ouest, de l'Est, etc., qui ont les mêmes problématiques et qui se sont regroupés dans un mouvement qui s'appelle Touche pas ma ZEP, et donc qui organise des manifestations soit régionales, soit nationales. Il y a eu plusieurs fois des montées, ce qu'on appelle des montées d'équipes d'enseignants, de parents sur Paris, et ça va continuer. C'est le travail en réseau, hein. C'est un véritable réseau de défense et de proposition, parce que ça n'est pas simplement de la, comment on pourrait dire, de la résistance, parce qu'elle est nécessaire, cette résistance, mais également une force de proposition pour que, et de dialogue, pour que on structure les meilleures conditions possibles pour améliorer l'enseignement dans les lycées, qui pose problème, et d'une façon plus générale, parce qu'on a besoin d'une grande réforme des lycées pour que la réussite, et pas simplement supprimer les inégalités, mais pour que la réussite soit la clé. Prolongement, certains, pendant les élections, là, proposent qu'il y ait un prolongement de la scolarité, au-delà de 16 ans, passer à 18 ans. Il y a la question des lycées professionnels, hein, effectivement, lycées professionnels, où il y a une majorité d'élèves, et notamment dans les villes populaires comme Saint-Denis, qui sont présents dans ces lycées professionnels et qui ont besoin d'être soutenus. Et donc tout ça forme un ensemble pour qu'on sorte des clivages qui se maintiennent, d'inégalités entre ceux qui ont les moyens d'étudier, les moyens de parvenir à un enseignement supérieur, et puis les autres.
Et justement, vous êtes force de proposition pour la réforme du lycée qui va peut-être être mise en place après l'élection de 2017 selon le candidat. Quelles sont vos pistes, vos propositions ?
Les propositions, c'est effectivement qu'il y ait les effectifs les plus faibles possibles pour qu'il y ait cet accompagnement. La démonstration est faite. Il y a des lycées, notamment à Paul-Éluard, où la démonstration est faite qu'avec ces conditions-là, on peut réussir à surmonter les inégalités et aller vers une école véritablement de la réussite. Donc la question, c'est pas simplement de maintenir l'état actuel, c'est de développer, d'étendre à tous ceux qui sont encore dans l'attente d'une meilleure réussite dans l'établissement, ce qui a marché dans un lycée comme Paul-Éluard. Moi, j'ai le souvenir, il y a 30 ans, qu'il y avait comme ça des dispositifs, parfois des moyens un tout petit peu supplémentaires, qui étaient donnés à une classe. Et puis cette classe faisait la démonstration parce qu'il y avait un travail d'accompagnement, un travail de dialogue avec les parents, de travail de synthèse, un travail d'équipe entre les enseignants. Ça marchait. Ça marchait très bien, et des élèves qui étaient en difficulté parvenaient à réussir. Qu'est-ce qu'on faisait au bout de l'année ? À la fin de l'année, ces moyens étaient supprimés et la classe était supprimée à la place d'étendre à tout l'ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est un autre processus. C'est là où ça marche. Étendre à l'ensemble de l'éducation nationale ce qui marche.
Merci Jean Braffman.
Mais je vous en prie. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight.
Sur Radio Déclic 106.3, vous venez d'écouter Justin Bieber, Major Lazer et Mo avec le titre Cold Water.
Et tout de suite sur Radio Déclic,
la chronique de Georges.
La chronique de Georges.
La chronique de Georges. C'est maintenant.
Sur Radio Déclic.
Alors Georges, ce soir on parle d'un grand homme.
Exactement. Mais avant de commencer à parler, bonsoir Monsieur Dain. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme tout seul. Pratiquement, il a construit la France. Cet homme, malgré des siècles d'histoire, toujours il reste comme un phare et éclaire les chemins pour nous tous. Et cet homme, il est Louis IX. Louis IX, ma foi, il est né l'année 1214. Son père, c'est Louis VIII. Son grand-père, il est Philippe Auguste. Sa mère est Blanche de Castille. Son père, malheureusement, il est mort lorsque l'enfant était jeune. Évidemment, sa mère, Blanche de Castille, est devenue régente. Et dans cette époque, dans cette période, la France, il y avait des troubles de tous côtés. Il y avait les seigneurs avec Henri III d'Angleterre, de Bretagne, c'est-à-dire les seigneurs de Bretagne avec Henri III d'Angleterre, ils se battaient contre le roi de France. Il y avait une guerre de religion, c'est-à-dire les cathares, ils se révoltaient contre les catholiques. Et la mère, elle a pu, en tant que régente, les calmer un peu. Jusqu'à lorsqu'il est devenu Louis IX majeur, il a pris le nom de Louis IX. Et lui, toute cette diversion qu'il y avait dans le pays, il a pu les maîtriser parce qu'avec les Anglais, il a fait un pacte de 5 ans. Chacun reste à sa place. C'est-à-dire, on ne fait plus la guerre pendant 5 ans. Vous tenez les territoires que vous avez acquis. Et la France aussi, elle tient les territoires qu'il a actuellement. Et de l'autre côté des Qatar, aussi, il a laissé un peu de liberté pour se calmer. Mais malheureusement pour lui, il tombe malade. Il tombe gravement malade. Et lui, il a dit, oh Dieu, si tu vas me guérir, je vais faire la croisade. Parce qu'il était le siècle de croisade. Et évidemment, il a été guéri. Donc il a tenu sa parole pour faire la première croisade de Louis IX. Il a construit le port de Aigues-Mortes et son armée l'a dirigé en place à la Terre Sainte et parti en Égypte.
Alors on est dans les années quoi, 1200 quelque chose
et nous sommes dans l'année 1000, 200, pratiquement 30, 35. Donc, il est parti vers l'Égypte. La première ville qu'il est arrivé était Damiet. Il a pu la voir. Après, Anna de rester dedans, il a dit, je vais attaquer la deuxième ville qui s'appelait Mansoura. Et malheureusement pour lui, à Mansoura, il a perdu la bataille. C'est pas seulement il a perdu la bataille, mais il est tombé prisonnier, lui, et avec tous les seigneurs qui étaient avec. Donc, pour les libérer, il a payé une forte rançon pour être libéré. Il est revenu en France, mais psychiquement, il était atteint. Il était atteint parce que, comme ça se passe, il a perdu et tout ça, c'est-à-dire son frère cadet, qui s'appelait Charles d'Anjou, lui, il venait d'une bataille victorieuse à Sicilia, de Sicile. Donc, il a dit, mon frère, pour le roi, tu ne vas pas rester, c'est un échec. On va faire deuxième croisade. Et bien, il a dit, d'accord, on va faire la deuxième croisade. Mais cette fois-ci, on va la diriger vers Tunis. Donc, lui et son armée, elle va à Tunis, capitale. Malheureusement, là-bas, il y a une épidémie. Moitié de ses soldats, et lui aussi, sont décédés là-bas à Tunis. Et l'année 1270. Mais sa mort en Tunis, ici en France et en Europe, il est devenu pour lui, c'est-à-dire un aura. Parce que roi chrétien, roi qui est mort en croisade, c'est quelqu'un qui mérite le respect, et comme dit maintenant, subito santo. Les gens commencent à crier partout, tout de suite, devenu ça. Et à vrai dire, 30 ans après, 1297, l'Église a déclaré ça. Mais son action pour la France, parce qu'il n'était pas seulement que la guerre, la croisade, son action, premièrement, il a pu, grâce à ses capacités de négociation, il aimait beaucoup la France, il a dit tout le trouble qui était, l'Angleterre même, le roi d'Angleterre est parti tout seul, il a laissé tout ce qu'il avait acquis. Les Qatars sont revenus à la France. Et ce qu'il a fait de nouveauté, c'était la paix et la prospérité. Tous les Français de cette époque, comme on dit, ils mangeaient assez. Ils sentaient en paix et tout. Et deuxièmement, ce qu'il a fait de bien aussi, il a fait un conseil de seigneur qui il peut lui orienter, proposer et demander s'il avait besoin. C'est-à-dire, leur conseil, ainsi n'était pas le roi absolu qu'il décidait de faire. Et en plus, ce qu'il a fait, il a construit la Sainte-Chapelle qui est toujours existante. Et son règne, pratiquement, était le meilleur qu'il a parmi tous les rois de France. Celui qui, le Français, il sentait qu'il les aimait. Et à cause de ça, c'est-à-dire, sans lui, pour la France, jusqu'à maintenant, il est toujours un phare qui nous conduit. Et la France, elle ne peut pas être la France sans lui. Et j'espère, tous on prend comme un modèle, d'agir toujours positivement pour construire, comme il a fait lui, de construire la France. Merci beaucoup.
Merci Georges pour cette chronique. Alors je vais juste passer avant la parole à Cézède, parce que je sais que ça le démange. Alors Louis IX, pour toi, Louis IX, Cézède.
Oui, du coup après ta chronique, Georges, on va être obligé de changer nos oreilles, parce que Louis IX...
Voilà, Louis IX, il est pas d'occasion, en tout cas, c'est pas un tocard, ce roi-là. Mehdi.
Petite précision, ces aides ont dit Louis IX.
Voilà, ben on aura appris quelque chose. Alors c'est marrant, c'est vrai que ce roi, alors en général quand on parle roi, ben, tout de suite ce qui vient à l'oreille des gens c'est Louis XVI, etc. Parce que bon voilà, il a été guillotiné. Et c'est vrai que Louis IX comme ça, on n'a pas trop l'habitude en fait de parler de lui alors qu'il a beaucoup, beaucoup marqué.
Il a beaucoup marqué parce que le côté de sainteté,
oui.
Elle cache tout son action. Ouais. Parce qu'en tant que saint, c'est-à-dire, à vrai dire, elle apporte plus jusqu'à maintenant des touristes. Parce que la France, elle est reconnue grâce à déjà comme ça. Il y a Louis IX, sans lui, Louis XIV, pratiquement c'est tout.
Ouais, c'est
parfois
vrai.
On va François Ier, parfois d'autres. Mais en tout cas, les deux, surtout sans lui, s'arrêtent pour toujours, parce que le ciel, le roi, en Europe et en France, il est considéré comme ça.
Oui, c'est elle ?
Oui, juste une petite précision, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, je devais me renseigner par rapport à Louis XVI et la basilique de Saint-Denis.
C'est vrai.
Donc, je me suis renseigné et je me suis trompé.
À Marie-Antoinette.
Et Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Et Louis, donc, je me suis renseigné, et donc, ce n'est pas, bien sûr, leur corps, mais c'est leur statue mortuaire.
Ah, qui est à la basilique. D'accord.
Voilà.
Alors, et la tête, elle est où ? Parce qu'ils ont été guillotinés, ceux-là. Donc, la tête, voilà, on fait un appel aux auditeurs, c'est pour trouver la tête de Marie-Antoinette, dites-nous-le. Eh bien, on continue, on se retrouve tout de suite.
And abusing, you laying over me cause you understand me. Swear I love you so much, I love your whole family. Bedroom dresser full of your panties. We make the room feel like summer Miami. No stressing whenever you leave, cause can't nobody in the world fuck you better than me.
T'es toujours sur ta radio préférée, Radio Déclic 106.3. De 18h à 19h.
Alors, on vient d'écouter Chris Brown et Big Sean avec le titre, je ne sais pas le titre, donc on vous le dira plus tard, ou vous n'avez qu'à aller sur www.associationdeclic.org et vous aurez le titre. Eh bien, on retrouve les pépites que nous a dénichées CZ.
Alors, mes amis autour de la table, je vais vous poser une petite question. Quel est l'animal, d'après vous, qui vit le plus longtemps
Alors, à votre avis, Philo, par exemple, à ton avis, l'animal qui vit le plus longtemps ?
Le
cafard.
Le cafard. Non, mais parce que, je sais pas, tu en tues un, t'en revois.
C'est vrai que les cafards, on doit avoir une longue vie. Je crois que c'est pas ça, mais.
Mais
cafards,
je plaisante, mais je ne sais pas.
Trésor, en fait. Tu as une idée ?
L'éléphant ?
Alors, non.
L'éléphant,
oui, mais longtemps, mais non. Alors, je vous aide, allez, c'est dans l'eau.
Ah, c'est dans l'eau.
Moi, j'ai la tortue.
La tortue ?
Oui.
Elle vit longtemps, mais pas aussi longtemps que ça.
C'est pas ça.
Mehdi, une idée ?
La baleine ?
C'est pas ça non plus.
Alors c'est plus, beaucoup plus
c'est
petit.
C'est beaucoup plus petit. Beaucoup
hein. Une étoile de mer ?
Non. Alors c'est un type de palourde donc, qui a été retrouvé dans l'océan Atlantique et qui peut atteindre plus de 500 ans. Voilà. Oh. On a retrouvé un spécimen âgé de 507 ans qui a été pêché donc, il y a quelques années au large de l'Islande.
Mais alors comment on fait pour déterminer justement l'âge ?
Alors comment on fait ? Eh bien c'est comme pour les arbres. Sur la coque, il y a des stries. Et donc, une strie égale un an.
Donc, il y avait 507 stries.
Voilà, sur la coque. C'est comme ça qu'ils ont déterminé l'âge.
D'accord. Donc, il y en a un qui s'amuse à compter.
sous l'eau, avec son masque. Un, deux, trois. Enfin, voilà.
Pour vos prochaines vacances. Hein.
Si heureusement qu'elle n'est pas lourde. Hein, voilà. Pour pouvoir compter.
Oh elle est pas mal. Tu vas nous dénicher aussi des pépites.
Il a bien sauté. Hein.
Et donc justement, alors pour la petite histoire, donc à cause d'une erreur de manipulation lors de la capture de ce coquillage, et ben malheureusement, lorsqu'ils l'ont pêché, le coquillage est mort.
D'accord. Ah.
Donc on ignore combien d'années il aurait pu encore vivre.
En tout cas, encore.
Ils l'ont mangé ?
Ça, c'est pas dit.
Ça, oui, c'est vrai que ça se mange.
C'est vrai que ça se mange la palourde. Ouais, c'est bon, hein, avec de l'ail et du persil, tout ça.
D'accord. Ok, bon, ben on arrête là pour cette pépite et puis on te retrouve tout à l'heure. Alors, on en vient à Philo, justement. J'espère que tu vas relever le défi, tu vas pas être lourd, toi. Voilà, donc on va attaquer avec ta rubrique. Donc, tu nous parles d'une herbe.
Oui, ben justement, avec cette herbe, non, on ne se sent pas lourd, on se sent très léger quand on la fume. Mais là, je ne veux pas vous parler de son bienfait, comment dire...
Son côté récréatif,
on va dire. Voilà, je vais plutôt vous parler de son côté médicinal. Et donc, cette plante, c'est le cannabis, et que je trouve très jolie d'ailleurs. Enfin, la feuille,
la plante.
Je pense. Oui, et alors, donc pour certains, quand on leur dit cannabis, ils pensent directement au joint, la drogue, l'interdiction, enfin, tout team. Et pourtant, cette substance possède aussi des vertus médicales pour des patients atteints de douleurs chroniques, dont je vous citerai quelques exemples tout à l'heure. Et donc, ces vertus sont de plus en plus reconnues par le monde, comme le Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, la Finlande ou encore certains pays d'Amérique, mais rarement en France, car sa prescription reste encore exceptionnelle. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti pour cette occasion qui s'appelle « Cannabis médical du chanvre indien au THC de synthèse ».
Voilà. Alors, chanvre indien, qui est aussi le cannabis, mais c'est vrai, quand on utilise chanvre indien, c'est plutôt pour le côté industriel de la plante, puisqu'elle se cultive essentiellement pour après en récolter les fruits, pour faire des vêtements, tissu, ça fait des super t-shirts, par exemple, ou des vestes, ou des chemises, etc.
Oui, même des panneaux...
pour isoler.
Voilà, isolant. Et donc, alors bien sûr, c'est pas nouveau, hein, le cannabis qu'on appelle, donc, comme tu l'as dit, chanvre indien, est utilisé comme plante médicinale depuis l'Égypte ancienne. Mais ce n'est finalement qu'en 1992 que l'intérêt pour cette substance a été reconnu par un certain professeur Raphaël Meshulam, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a donc découvert que le système des endocannabinoïdes jouait un rôle dans pratiquement tous les systèmes physiologiques qui ont été observés. Donc notamment, je vous cite quelques exemples, les spasmes liés à une sclérose en plaques, des nausées du sida, les chimiothérapies lors des cancers. Ça améliore aussi le sommeil, ça stimule l'appétit aussi. Il est prescrit également dans le traitement de l'épilepsie. Donc, par exemple, à l'Académie américaine de neurologie, 100 personnes souffraient de l'épilepsie et ne répondaient pas au traitement actuel. Et ils ont donc été soumis à un traitement à base d'épidiolex, un médicament qui est composé de 99% de THC. Et ce, pendant 12 semaines, et les résultats apparemment étaient très éloquents. Et ça ralentirait aussi apparemment la progression d'Alzheimer, car c'est une plante, il faut savoir, qui contient des acides gras oméga-3 qui abaissent aussi la pression sanguine et réduisent les risques de cardiovasculaires et donc prévient l'arrivée d'Alzheimer plutôt que prévu.
Ouais, donc oméga-3, très bon pour pour le corps. Hein.
Et donc, qu'il soit utilisé en complément thérapeutique donc pour gérer les effets secondaires des traitements habituels ou en alternative à d'autres traitements, le cannabis a des bénéfices connus et reconnus dans certains pays et où il est donc prescrit, par contre, sur certaines conditions. Il y a aussi, par exemple, si vous habitez aux Pays-Bas, l'Office pour le cannabis médical recommande sa consommation sous format de tisane ou en utilisant des vaporisateurs ou des dispositifs permettant d'inhaler le principe actif du cannabis sous forme de vapeur. Il y a aussi au Canada, depuis 2005, il y a un spray buccal qui est fait à base d'extrait de cannabis qui s'appelle du Sativex, qui est accessible en pharmacie comme ça, en cas de pathologie neurologique grave. Et un dernier exemple, aux États-Unis, il y a aussi deux médicaments en base de THC, le Sesamette et le Marinol. Ça aussi, pour les patients dont on leur prescrit donc d'en prendre, mais ils ont par contre une carte avec eux qui justifie...
Oui, parce que c'est très réglementé. Il faut une prescription médicale, en tout cas pour ces pays-là. Et la plupart des pays que tu as cités, qui utilisent les traitements en traitement médical ou en appoint, on va dire, sont des pays qui ont légalisé le cannabis. Parce qu'en France, pour l'instant, ça ne...
Oui, par contre, en France...
Ça n'est pas. C'est... Alors, on rappelle, on parle du cannabis, mais pour ces bienfaits au niveau santé, au niveau médical, puisqu'on l'a vu, ça peut aider pour des grosses maladies, type cancer, après les chimios, le sida, etc.
C'est un bon anti-inflammatoire aussi. Ça calme plusieurs maladies. Bon, c'est dommage qu'en France, il n'est pas encore bien...
Bon, on verra, les élections arrivent, il y en a qui sont
contre. Ouais, sait-on jamais.
Sait-on jamais, on verra.
Peut-être qu'ils devraient en prendre aussi, pour s'ouvrir l'esprit.
Exactement.
Je ne sais pas.
Peut-être, en sachant qu'il y a même certains États, tu parlais des États-Unis, qui se sont enrichis, qui sont même trop riches depuis qu'ils ont, je pense, c'est un État en Californie, depuis qu'ils ont légalisé le cannabis, en fait, la ville est devenue très très riche, à un tel point qu'ils redistribuent de l'argent. D'autres infos?
Non.
Donc,
la prochaine fois.
La prochaine. Mais justement, en lien avec ça, une pépite de CZ qui est liée.
Voilà, en lien tout à fait avec le cannabis. Et en Île-de-France. Parce qu'en Île-de-France, on a du cannabis 100%. 100%, donc 93, 77 et 91.
Donc en Île-de-France, on a... On a du cannabis francilien, on va dire.
Francilien, voilà, francilien. Ah. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quelques temps, on a découvert 600 plants à Ris-Orangis, donc dans l'Essonne, et à Brie-Comte-Robert, donc dans le 77. Voilà, dans des entrepôts équipés de lampes et d'un système d'arrosage automatique. Et donc, les fournisseurs étaient du Rincy, 93, et les revendeurs de Stein. Donc aussi du 93.
Nos voisins.
Voilà. Mmh. Donc c'est pour ça que c'était du cannabis 100% Île-de-France.
Une deuxième pépite. On va parler un petit peu d'amour, puisque Tinder des orangs-outans.
Voilà, donc c'était la Saint-Valentin il y a 3 jours. Donc on peut en parler. Donc voilà, les Tinder et les orangs-outans. Donc tout le monde connaît autour de la table Tinder.
Oui,
oui, cette fameuse... c'est une application de rencontre. une application de rencontre. Voilà, donc aux Pays-Bas, il y a un zoo a inventé un système pour aider les orang-outans à choisir leur partenaire en ligne.
Oui, oui, non, mais
c'est une vraie info. C'est une vraie info. Donc cette nouveauté, devrait permettre d'augmenter le nombre d'accouplements.
Bah alors comment ça se passe?
Alors, donc les singes réagissent à des photos de leurs congénères présentées sur une tablette. Ils adoptent une attitude tantôt neutre, tantôt agressive, face aux clichés. Et après avoir vu la photo, les singes doivent valider ou refuser en appuyant sur un bouton sur l'écran. Voilà, comme l'application pour nous chez les humains. Hein. Voilà, on choisit, on valide ou on valide pas. Voilà, donc leur capacité de réaction a été ainsi mesurée.
Alors, est-ce qu'on connaît les résultats, finalement ?
Oui, alors les premiers résultats, donc les primates sont particulièrement sensibles aux photos de leurs congénères, ayant un comportement sexué ou se cherchant des poux. C'est bizarre.
Chacun ses codes. Hein.
Voilà. Et tous les goûts sont dans la nature comme chez nous. Malheureusement, cette expérience a dû être interrompue après qu'une femelle, manifestement peu charmée par ses prétendants, a démoli la tablette.
Alors, peu charmée ou trop charmée, on ne sait pas finalement.
Pas trop,
l'histoire ne le dit pas.
Mais voilà.
Marie-Jeanne, jamais je marie, jamais sans mari. Des fois ça m'arrive, mais je fais avec. J'accepte ma fidélité, fumeur d'élite. Dans ma tête, jamais un délai, un soupçon de délire. Mon flot se délire, j'ai besoin d'un livre, mais souvent d'un lit. Marie, j'aime ton déhanché. T'as déclenché chez moi une dépendance. Tu me procures du plaisir en abondance quand tu danses pour moi. Quand je me retrouve dans tes bras, quand je me retrouve dans tes draps, quand ta tendresse m'embrasse, je m'emballe dans la sainte puce, savoir où j'en suis, je t'en prie, apaise-moi, laisse-moi ton 06 pour qu'on se revoie. J'ai pas l'intention de te dire au revoir. Marie danse, Marie brûle, Marie Jeanne, Marie j'aime ton parfum. Marie fraîche, Marie j'aime quand tu sèches. Marie Jeanne, ouais c'est toi que j'aime. Marie danse, Marie brûle, Marie Jeanne, Marie j'aime ton parfum. Marie fraîche, Marie j'aime quand tu sèches. Marie Jeanne, ouais c'est toi que j'aime. Putain Marie, t'as augmenté le contraste. Voyage au pays des merveilles, tu maintiens mes sens en éveil. Chaque jour t'es plus généreuse que la veille. Marie j'aime l'effet que tu me fais planer, tu me rends pas net. Marie fouette quand elle cause des problèmes, mais je peux pas m'en défaire quand je veux arrêter ça sans la défaite. Quand t'es présente à une fête, je t'aime trop Marie. On fait le pari de tous tes amants, c'est moi le plus fidèle. Marie, j'aime ta verdoyance, je consomme très peu ton cousin. J'aime tes têtes, la finesse de tes branches, la douceur de tes feuilles. Si
voilà, on vient d'écouter un extrait de Siv avec le titre Marie-Jeanne.
En direct de Radio Déclic. Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Vous êtes avec nous de 18h à 19h. 18h à 19h. Tous les 1er, 3e et 5e vendredi de chaque mois.
Voilà, dès 18h. On retrouve Trésor. Alors Trésor, un grand moment de la radio.
Oui, je vais vous parler des radios pirates. Alors les radios pirates portent ce nom car elles émettent pour la plupart d'entre elles d'un bateau et aussi bien sûr parce qu'elles étaient illégales. De tout temps, les États ont tenté de contrôler les moyens d'information. Pour déjouer donc les monopoles d'État, les stations émettaient donc depuis les eaux internationales, échappant ainsi en théorie aux réglementations en vigueur dans chacun des pays. Les premières donc, sont nées dans les années 60 dans la mer du Nord et émettant vers les pays donc, du Sud, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Mais ce sont celles émettant vers l'Angleterre qui ont marqué les esprits, comme Radio Caroline dont on vient d'entendre un des jingles, ou Radio London. Toutes les deux ont largement contribué à l'essor de la musique et du rock au Royaume-Uni. Donc pour les contrer, eh bien, il y avait deux solutions. Ou à raisonner le bateau, c'est-à-dire ces pirates des Caraïbes, ils arrivent, ils éteignent tout, etc. Ou brouiller les ondes. En France, on a eu quelques radios pirates, mais elles qui étaient sur Terre. Beaucoup ont été fermées par la DST. Et à partir de 1981, la législation a changé. Et donc, on a créé les radios libres, et non plus pirates.
C'était Mitterrand, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Alors, il faut savoir qu'il y a eu aussi en 1973 une radio israélienne qui s'appelait Voice of Peace, qui cherchait à aider à la réconciliation entre le peuple israélien et palestinien, donc qui émettait dans les deux pays et qui a dû cesser ses émissions parce que les autorités s'y sont opposées de tous les côtés. Voilà, donc si vous voulez avoir une petite idée de l'ambiance qui pouvait régner sur ces bateaux, je ne saurais trop vous conseiller de regarder le film Good Morning England, qui est totalement Radio Caroline.
Voilà, qui retrace ça. Et en tout cas, ben, qui dit Radio Pirate ou Radio Libre, c'était, voilà, on pouvait s'exprimer comme on le voulait, et dire ce qu'on voulait. Donc, beaucoup moins de... Il n'y avait pas de censure, ne serait-ce que la censure des propres animateurs, présentateurs,
oui,
aux journalistes.
Oui, ou de quotas aussi au niveau... parce que pendant, par exemple, à un moment, sur les radios d'État, on ne pouvait pas passer de musique américaine. Enfin, il y a eu choses comme ça, un peu pénibles, qui étaient donc contournées par les radios pirates.
Eh bien, merci Trésor. Et alors, CZ, un petit...
Oui, bah, si je ne me trompe pas, une grande radio française avec un puma, si je ne dis pas de bêtises, pas dire de nom. On peut dire le nom ou pas ?
Oui, oui.
Non.
Si, si, si on peut. Énergie
a commencé dans une salle de bain.
Oui, tout à fait. Alors, Énergie, qui n'était pas du tout la radio qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et puis, une des radios qui, à un moment donné, qu'on a voulu fermer. Et il y a eu une très grande mobilisation, en fait, de ses auditeurs. Et la radio a pu continuer. Ouais, tout à fait.
Un dimanche après-midi, avec une marche avec je ne sais plus combien de millions de personnes.
Alors, une radio qui a bien changé depuis, malheureusement.
On est bien d'accord.
Mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite lady Melody. Wow, wow, oh, oh. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma lady. J'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse, et je chante à ses côtés. Dans les orages, les tempêtes, jamais elle ne m'a quitté. Quand je m'arrête d'avancer, j'ai trouvé. Elle est le soleil que j'attendais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me chaque voyage loin d'ici, elle est ma lady Melody. Ah, yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est
là-haut, je fly, ouais. Quand j'entends sa mélodie, je fly, ouais. Il n'y a qu'elle qui me comprenne, je fly, ouais. Elle me donne le fire et je fly, ouais. J'évite les failles de la vie et je fly, ouais. Tu vois comme un oiseau là-haut, je fly, ouais. Comme un oiseau qui plane et je fly là-haut, tout là-haut, ouais.
Radio Déclic 106.3 tous les premiers, troisième, cinquième vendredi du mois.
Toujours à partir de 18h. Alors vous venez d'écouter Tom Frager avec le titre Lady Melody. Et j'en profite pour faire une dédicace à notre Jessica nationale, plus connue sous le nom de Mackenzie. Eh bien voilà, c'est l'heure, hein. On va se quitter, ça va vite. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours. En tout cas, on te retrouve CZ dans 15 jours pour d'autres pépites. Alors à noter, hein, des devoirs pour tout le monde. Donc dans 15 jours, on est au mois de mars. Le 8 mars sera déjà passé. Donc nous, on fera notre 8 mars, voilà, pas le 8, mais on le fera le jour de notre diffusion. Donc des CZ, des pépites féminines, on va dire.
D'accord, bah, je vais essayer de trouver ça.
Mehdi.
Alors moi, ça sera les infos et puis sûrement un reportage sur les mobilisations suite à la journée de la femme à Saint-Denis.
Voilà, journée des femmes.
Des femmes.
Ouais. Je le précise. Alors en sachant que sur Saint-Denis, clairement, c'est tout le mois de mars qui est consacré voilà, aux droits et à la lutte pour les droits des femmes. Philo.
Moi, ça sera une surprise en l'honneur des femmes.
Voilà, donc une surprise. Alors surtout, hein, s'il te plaît, ne parle pas de rose, hein.
Non.
Georges, une grande femme de l'histoire.
Ma foi, il ne fallait pas qu'un jour, pour honorer la femme, toute l'année, c'est l'honneur à la femme. Et toute la vie, c'est l'honneur à la femme. Et ça, souvent, on oublie, nous. On pense peut-être parce que les hommes sont des machos, ou peut-être parce qu'encore les femmes ne se défendent pas assez, ne se montrent pas, sont tas de capacités, tas d'intelligence, tas de travail, tas de progrès, mais malgré ça, elle reste timide dans leur coin. Et j'espère que ce jour, elle sera un début pour avancer. Il ne faut pas qu'on reste la main croisée, parce que notre avenir, c'est dans les mains des femmes. Et j'espère, l'histoire va nous aider aussi de trouver une femme qui l'a battue, combattue, réalisé ses rêves et est devenue un modèle pour nous et toutes les femmes aussi.
Voilà. En tout cas, dans l'histoire, il y en a plein. Il suffit simplement de chercher, comme on dit. Alors là où je ne suis pas tellement d'accord avec vous, Georges, mais on en reparlera dans 15 jours, c'est qu'il faut qu'elle se montre plus, etc. Il y a énormément de femmes qui se battent, qui sont là. Après, faut-il encore qu'elles puissent avoir accès à, ne serait-ce que par exemple, je sais pas, aux grands médias, etc., ou à d'autres choses. C'est plus l'accessibilité et c'est encore un des combats qu'elles ont à mener pour pouvoir être beaucoup plus au-devant de la scène. Trésor ?
Ben moi, je sais pas encore, mais ça parlera des femmes. Peut-être des choses qui énervent les femmes.
Ah, des choses qui énervent les femmes. Oh, combien il y en a beaucoup, hein. Donc voilà, bah, écoutez, c'est la fin de l'émission. Donc on se retrouve dans 15 jours sur FPP 106.3. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur www.associationdesclics.org. Vous pouvez réécouter les podcasts, vous pouvez voilà, commenter. Vous pouvez nous envoyer aussi des mails sur radiodesclics@gmail.com si vous avez des commentaires ou des idées. Voilà ce que vous pensez aussi des chroniques de tout le monde. Donc n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve, comme j'ai dit, dans 15 jours. Restez à l'écoute de FPP 106.3 parce que l'émission qui suit, c'est l'envolée. Salut, bye bye.
posted at the coffee shop. We would sit and talk for hours. Never thought in a million years things would change. Back to my heart. Your hooks in my soul. Feels like I'm dying slowly all because you. And your love will never let me go. Haunted by the picture frames, I can almost touch your face. Memories can really be hell sometimes. I thought I could walk away, but it ain't that easy, babe. When you're curled up in the lonely every night. We were something, but you were fronting. Now I'm sitting here wishing I could get you out of my head. Baby, I tried, but I can't unlove you. You know you got your hooks in my soul. Feels like I'm dying slowly all because you. And your love will never let me go. Turning the page, and I turn out the light. But I'm back in the same old place, 1,001 times. Takes all the breath out of me, I just can't escape. I can't do this no more. Baby, I try, but I can't unlove you. You know you've got your hooks in my soul.
Trust with my life if I have to. Who can I give love to if I need to? Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Colors are fading, all the lights gone dark. Stop raining. Everybody's gone, and my joy is sad. Craving for love and happiness. Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? With my life if I have to. Who can I give love to if I need to? Time keeps flying away, though it feels like my life is on hold.
Radio Déclic 106.3. Radio Déclic 106.3.